Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. On était des esclaves pour les Arabes, les Noirs, ce n'est rien, moins que des animaux. Ces mots de migrants africains, on les entend aujourd'hui dans les médias du monde entier. Mais pour qu'ils deviennent audibles, il aura fallu le choc des images de CNN sur une vente aux enchères d'êtres humains. En fait, depuis plusieurs années, les ONG alertent les États européens des cas d'esclavage et de torture en Libye. Longtemps correspondante à Rome pour Accent, journaliste qui a suivi ces drames, Mathilde Auvillain est désormais porte-parole de SOS Méditerranée. Alors Mathilde, depuis le début, les membres de l'Aquarius recueillent ces témoignages de migrants et ils les rapportent.
Effectivement, SOS Méditerranée, comme toutes d'ailleurs les ONG présentes en Méditerranée, est présente aussi à terre en Italie lors des débarquements. SOS Méditerranée n'a cessé en 22 mois de mission d'alerter la société civile européenne, les médias, qu'ils soient nationaux, européens, internationaux, mais aussi les responsables politiques sur les témoignages terrifiants des naufragés, de ces personnes qui n'ont d'autre alternative que de s'embarquer sur des rafios pour fuir la Libye, littéralement. Force a été de constater que ces naufragés évoquaient avant tout l'enfer libyen, séquestration, viol, extorsion de rançon sous la torture, maltraitance et humiliation, travaux forcés, marché d'esclaves dont ils ont été victimes de l'autre côté de la Méditerranée.
Alors Mathilde Auvillain, que vous racontaient-ils précisément tous ces survivants ?
Des survivants, en effet. Alors ils nous parlent de torture. Le fouet, c'est le matin, le midi et le soir. C'est notre pain quotidien. Les Libyens nous battent tout le temps, sans raison. Ils nous mettent en prison, sans motif. Les gardiens de la prison, ils tuent les gens et les jettent dans un trou. Ils ne referment le trou qu'une fois qu'il est rempli de corps, nous a expliqué un jeune Camerounais cet été à bord de l'Aquarius. Certains nous racontent aussi qu'ils ont été forcés de regarder des prisonniers pendus par les pieds et leurs gardes shootés dans la tête comme un ballon de football. Ce sont leurs mots. Ces tortures visent le plus souvent à extorquer de l'argent à leurs familles qui sont au bout du téléphone et qui entendent les hurlements de souffrance de leurs proches et donc se précipitent et font le virement demandé par les gardes. Alors, ils nous parlent aussi de viol. Il faut savoir que la plupart des femmes que nous secourons en Méditerranée ont été au moins une fois victimes de viol au long de leur voyage. Exemple, ils nous ont amené des femmes, il y avait des filles. Les filles qui étaient même plus jeunes que moi, ils les ont violées devant nous et il fallait qu'on regarde. Il y avait leur père ou leur frère et ceux qui voulaient empêcher ça étaient tués sur place, nous a expliqué un jeune Gambien de 17 ans à bord de l'Aquarius. Ces naufragés nous parlent aussi d'esclavage depuis 22 mois. Ils nous racontent qu'en Libye, les Arabes viennent dans les prisons acheter les Noirs pour les faire travailler, qu'ils vendent les Noirs pour 1000 dinars, que les Noirs sont traités comme des animaux, des bestiaux, vendus par groupe d'un trafiquant à un autre. Et les femmes sont littéralement victimes de traite humaine, notamment les femmes nigérianes qui sont vendues comme des esclaves sexuels. Ils nous parlent aussi d'enfants qui sont nés dans des centres de détention, de femmes et de nouveau-nés qui meurent faute de soins médicaux, des récits très récurrents, confirmés par les examens médicaux à bord de l'Aquarius. Examens et témoignages qui sont transmis aux autorités italiennes à l'arrivée afin d'assurer la protection des plus vulnérables, des récits qui sont collectés et rendus publics aussi à la demande même de ces rescapés, car souvent, ils nous confient leur histoire pour que nous la diffusions, pour que personne d'autre ne tombe dans ce piège libyen.
On nous prétend qu'il y a beaucoup moins de migrants qui traversent la Méditerranée, que la route est désormais fermée. Est-ce que ce sont vos constatations en mer ?
Le nombre global de traversées a baissé, effectivement, depuis le mois d'août. Mais à quel prix ? La traversée en mer est parfois, très souvent, l'unique échappatoire pour des dizaines de milliers de migrants et réfugiés qui sont pris au piège en Libye. Alors aujourd'hui, l'Europe peut-elle dignement se réjouir d'avoir empêché des milliers de personnes de fuir cet enfer de violence et aussi d'avoir encouragé et financé des gardes-côtes qui interceptent ces embarcations et raccompagnent les personnes dans l'enfer qu'elles fuyaient ? Alors pour SOS Méditerranée, il y a toujours urgence en Méditerranée. Il y a une crise humanitaire de grande ampleur aux portes de l'Europe. Et malgré le manque de réaction jusqu'à maintenant des responsables européens face à la remise en cause de valeurs humaines fondamentales, eh bien, SOS Méditerranée ne peut accepter de voir des êtres humains mourir en mer. Elle ne peut accepter non plus de les voir repartir vers la Libye. Donc, plus que jamais, l'Aquarius doit maintenir sa présence en Méditerranée centrale pour secourir ceux qui cherchent à fuir l'enfer, pour les protéger et pour continuer à témoigner de la réalité vécue par ces femmes, ces hommes et ces enfants en quête de protection.
Merci Mathilde Auvillain. Je rappelle que vous êtes porte-parole de SOS Méditerranée.
Frustration is growing among the refugees and migrants because Hungary is detaining them,
but doesn't even have a place to put them.
Alors, comment continuer à transmettre, à raconter ces histoires aux auditeurs, aux téléspectateurs? On se souvient de l'été 2015, de ces centaines de milliers de personnes qui ont traversé l'Europe à pied. Et c'est ce moment que le réalisateur britannique Urban Wallace a choisi de montrer dans son film Another New Story. Cécile Debarge a rencontré à Bruxelles l'un des protagonistes du documentaire, le journaliste belge Bruno Beckmann.
Europe is being tested as it has not been tested since the Second World War.
It's like hell. We came from hell.
Dans les phares d'une voiture, quatre silhouettes noires, quatre ombres qui avancent vers la caméra. Elles s'approchent, le pas rapide, et l'on distingue deux enfants, au moins. Première scène du documentaire Another New Story. Première déclaration glaçante. L'Europe est en train d'être testée comme elle n'a jamais été testée depuis la Seconde Guerre mondiale. Ces mots sont ceux de l'un des journalistes qui ont couvert ce que l'on a appelé la crise des réfugiés. Un autre ajout.
C'est le genre d'histoire qui arrive tous les 10 ou 15 ans. Tous les médias sautent dessus.
Des murs de caméras devant les migrants à peine arrivés sur les côtes de l'île grecque de Lesbos. Des questions posées dans tous les sens. On est d'abord surpris, voire choqué, du décalage entre le travail des journalistes et la détresse des migrants. Pourtant, on découvre que derrière les gros titres racoleurs, personne n'est sorti indemne des semaines passées à couvrir ces événements.
Mais c'était une histoire qui était tellement prenante que oui, je crois que l'opinion des journalistes changeait chaque jour sur leur métier.
Bruno Beckmann est l'un des protagonistes du documentaire. Journaliste, producteur de Breaking News depuis 1993, il gère tous les dispositifs spéciaux qui permettent de couvrir les situations de crise. C'est après un appel de son employeur, à 11h du matin, qu'il se retrouve propulsé sur le terrain.
J'étais dans un supermarché avec un caddie plein. Donc j'ai reçu l'appel d'aller couvrir l'histoire des réfugiés le plus vite possible, d'aller à Vienne. J'ai laissé le caddie avec tous les produits dans le supermarché. J'ai appelé ma femme qui est venue après pour chercher le caddie. Et moi j'ai pris l'avion 1h30 plus tard.
Dans le public, lorsque le documentaire est projeté, une question revient souvent. Est-ce que les journalistes ne deviennent pas cyniques avec le temps, avec l'expérience? Bruno Beckmann renvoie la balle et pointe la difficulté de faire exister un sujet, aussi dramatique soit-il, auprès des lecteurs et des téléspectateurs.
Le public peut garder la vraie attention combien de temps? Une semaine, deux semaines, trois semaines? Mais en général, moi, j'ai jamais couvert une histoire plus longue que... un mois et demi, deux mois.
Un mois et demi, deux mois. Pour rappel, les premières arrivées de migrants en Méditerranée ont eu lieu en 1988 via le détroit de Gibraltar, puis 89 à la frontière gréco-turque et 91 à Lampedusa. Autant dire une éternité pour le temps médiatique.
Quand l'audience voit que ça ne bouge pas du tout, qu'il n'y a pas de solution, quand ce sont des problèmes qui ne leur touchent pas directement, ils vont aller ailleurs, ils vont chercher des autres histoires.
Pourtant, les professionnels qui apparaissent dans le documentaire ne se résignent pas. L'un d'eux se confie après une longue journée à la frontière hongroise.
Probablement tout ça met quand même la pression sur les hommes politiques. C'est un sujet très sensible.
Dans le cas précis de 2015, on se souvient des déclarations de la chancelière allemande Angela Merkel ou des sommets européens convoqués en urgence. Des élans de solidarité aussi avec le slogan « Refugees Welcome ». Plus récemment, c'est un reportage de la télé américaine CNN qui a fait l'effet d'un coup de tonnerre. On y voit des hommes, subsahariens, vendus aux enchères en Libye. Les prochains mois nous diront s'il s'agissait, là encore, d'une histoire parmi tant d'autres.
Another News Story, c'est donc un documentaire du réalisateur britannique Urban Wallace, projeté pendant le Festival du cinéma méditerranéen de Bruxelles. Et c'est jusqu'au 8 décembre. Yeah. Et puis, il y a tous ces migrants oubliés dans les Balkans. On ne parle plus beaucoup d'eux dans la presse, d'eux alors que le froid s'installe en Serbie ou en Croatie. Officiellement, plus de 4000 migrants sont bloqués en Serbie. Ils végètent dans l'un des 18 centres d'accueil. Mais plusieurs centaines se retrouvent dehors en proie aux violences policières, notamment autour des zones frontalières et dans la capitale Belgrade. Simon Rico.
Ils sont au moins 150 à se cacher dans les bois qui entourent Šid, une ville de l'ouest de la Serbie à la frontière croate. Certains attendent là depuis plus d'un an, avec l'espoir de passer de l'autre côté pour rejoindre l'Union européenne. Il y a des Algériens, des Afghans, des Pakistanais et des Marocains. Pas de femmes à l'horizon, uniquement des hommes, jeunes pour la plupart. Tous refusent de rejoindre les structures d'accueil gérées par les autorités serbes, de peur de se retrouver privés de leur liberté de mouvement. De toute façon, faute d'être syriens ou irakiens, ils savent bien qu'ils n'ont aucune chance d'obtenir le droit d'asile. L'administration les considère en effet comme des migrants économiques et pas comme des réfugiés. En dépit de l'hiver qui arrive et des températures qui descendent chaque nuit sous les 0 degrés, ces candidats à l'exil logent dans des campements de fortune installés le long de la voie ferrée qui file en Croatie. Confectionnés à partir de bâches, de couvertures et de petites tentes, ces abris n'offrent qu'une bien maigre protection contre le froid et l'humidité, sans compter les problèmes d'hygiène, de santé et d'alimentation. Les petits repas, offerts par les deux seules ONG, l'une espagnole, l'autre allemande, qui leur viennent en aide, ne suffisent pas à couvrir leurs besoins quotidiens, mais ils leur permettent au moins un peu de sociabilité. C'est aussi là qu'ils peuvent témoigner de la brutalité des policiers croates qui ont la matraque et le racket facile lorsqu'ils les interpellent et les renvoient manu militari en Serbie. Pas question néanmoins pour eux de rester dans ce pays des Balkans où le chômage frappe la moitié des moins de 25 ans. Alors malgré la peur et les coups, rien ne les empêchera de retenter de passer.
Si on pensait naïvement être débarrassé de l'esclavage au XXIe siècle, certains événements tragiques se rappellent à nous encore aujourd'hui. Descendant d'esclaves réunionnais affranchis, Jean-Philippe Jean-Marie est à la tête de l'association Racines en l'air qui milite pour que la vérité soit faite sur les enfants de la Creuse. Ces 2000 enfants réunionnais envoyés de force en métropole entre 1963 et 1981 pour repeupler des départements, un scandale d'État qu'il assimile aujourd'hui à la traite des esclaves. L'enfer a débuté pour lui lorsqu'il a été retiré à l'âge de 9 ans à sa famille pour être placé dans un foyer social à Elbourg, à La Réunion. Avant d'être envoyé en France, il avait 11 ans. Il a raconté son calvaire et son combat à Frédéric Lebel dans le parc à Saint-Denis de La Réunion, où se trouve justement le mémorial sur la fin de l'esclavage.
On a enlevé la responsabilité aux parents. Quand on dit « Elbourg », ça veut dire « enfer », et pour nous, ça a été l'enfer. On était comme en prison, quoi. Hein. Si tu voulais te faire défendre par les grands, il fallait que tu donnes ton goûter. Je ne voulais plus rester, moi, me faire violer, tabasser. Je ne voulais plus rester à Elbourg. Donc, on dit « si tu veux partir en France, il va falloir mieux travailler ». Et quand j'avais des bonnes notes, on venait voir ma maman, et on lui disait « voilà, Philippe, il travaille bien à l'école ». On va le placer dans des grandes écoles en métropole. Donc, elle a mis le pouce, ou alors, c'est pas elle qui a signé, parce qu'elle savait pas y écrire. Et puis, qu'une fois qu'on était sous la coupe de l'État, ben, on appartenait à l'État, puisque moi, je suis pipi de l'État, alors que j'avais mes parents, toute la fratrie, mon père, ma mère, les tantes et tout. Quand on sait être pipi de l'État, c'est quelqu'un qui n'a plus de parents. Mais, en fin de compte, je me suis retrouvé embarqué dans cet avion, en vrai, pour Guéret, hein, foyer de Guéret.
Alors racontez-nous Guéret, l'arrivée à Guéret.
J'avais 11 ans, plus de parents d'un seul coup, plus de repères. Et là, une semaine, on voit des personnes qui arrivent, qui choisissent. Moi, je veux ce petit caf-là, je veux ce petit noir, parce qu'il a les bras qui sont comme ça, comme ça. Et puis, moi, je veux cette fille-là, parce qu'elle a l'air d'être souriante. Donc, je dis ça avec le recul, mais quand je vois ça maintenant, j'ai dit, mais c'est de l'esclavage. C'est de la même chose qui était fait à l'époque, quand on choisissait des personnes pour aller travailler à la canne ou quoi que ce soit, chez les maîtres. Donc là, c'était pareil. Moi, je me suis considéré comme chez les maîtres. On m'a placé sous une gardienne. Alors, se disant qu'on devait apprendre la langue française comme il faut, avoir l'écriture, mais je me suis aperçu rapidement que je n'étais pas là pour aller à l'école. Cette dame avait deux jumeaux handicapés, donc je gardais. Je sortais le chien qui s'appelait Ralph, je faisais la soupe le soir, je faisais les lits de la dame. Donc là, je faisais toutes les tâches ménagères, j'allais planter les poireaux, la salade. Bon, quand j'arrivais en classe, cet instituteur, il était très gentil et tout, il me voyait, il me fait « Philippe au tableau ». Et quand j'arrivais au tableau, eh ben, je ne savais rien du tout, puisque j'étais trop fatigué.
Et à l'époque, est-ce que vous vous dites « Quand est-ce que je rentre chez moi ?»
J'écrivais à ma mère, mais les lettres, ils étaient interceptées par les assistants sociaux. Ma maman a écrit et je n'ai jamais reçu. Et de même, elle n'a jamais reçu de lettres. Tout était fait de façon à enlever toute l'identité sur les personnes. C'est-à-dire qu'il fallait rapprendre la langue, il ne fallait pas parler créole, il ne fallait pas manger créole. On casse l'identité de la personne, il n'a plus de repères, il n'a plus de regard sur quoi que ce soit. Et à faire mesure, la Réunion, c'est comme une image. Comme je dis toujours, j'avais l'image de ma sœur qui était toujours restée comme une photo figée.
Et à partir de quand, de victime, vous décidez de reprendre un petit peu du pouvoir sur votre vie, essayer de retrouver vos origines et votre histoire?
Alors, quand j'ai fini mon apprentissage dans cette boulangerie, puisque j'étais, on va dire, esclave, puisque j'ai jamais été payé, à ma majorité, je savais que j'avais un carnet de caisse d'épargne qui était géré par l'assistance sociale. On m'a dit, mais tu as un carnet, et quand j'ai demandé mon carnet, il n'y avait que 300 euros dessus. Donc j'ai travaillé de l'âge de 14 ans jusqu'à 20 ans sans avoir été payé.
Et toute cette période de reconstruction personnelle qui s'amorce, elle se fait aussi dans une construction militante?
Pour l'époque, là, je ne suis pas encore dans une démarche encore de combativité et de dire quel gâchis. Puisque tout l'effacement qu'il y a de mon enfance s'est effacé. Il faut aller les rechercher, il faut... Et à faire mesure, je remonte le fil du temps et je m'aperçois que au Châtelet, à Chambon-sur-Ouelle, j'ai subi tout ça et c'est là que je comprends ce que c'est l'esclavage. Et moi qui pleurais jamais, on va dire, qui n'était pas sensible à quelque chose, et là tout ça, ça revient d'un seul coup.
Vous parlez beaucoup de l'esclavage. Et de votre famille, vous dites famille affranchie. Est-ce que vous avez un petit peu recherché justement l'histoire de votre famille?
Oui. Mon arrière-arrière-grand-mère, qui est une indienne qui était affranchie, donc affranchie, elle porte le nom Jean-Marie. Jean-Marie du prénom de son maître, qui l'a affranchi. Comme je dis, étant été une famille qui a été affranchie et que moi je ne l'ai pas été encore, et que ce petit bout de combat qu'on a gagné à la sueur de notre front, là, nous, enfants déracinés, pour que ce soit clôturé et tout, j'aimerais bien, moi, que l'année prochaine, au mois de février, le président de la République nous reçoit au plus haut de l'État et reconnaisse ce crime contre l'enfance pour les Réunionnais, déracinés dans les années 60. Moi, pour ça, ça sera vraiment, on va dire, la résilience totale de cette histoire.
Le témoignage de Jean-Philippe Jean-Marie, recueilli donc à La Réunion par Frédéric Lebel. Jean-Philippe Jean-Marie qui juge avoir été lui-même un esclave. Et c'est en février prochain que doit être publié le rapport demandé par le gouvernement pour faire toute la lumière sur ce scandale des enfants de la Creuse. À la réalisation de cette émission spéciale, il y avait Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver sur RFI.fr à l'onglet émission et puis bien sûr sur notre page Facebook. Dans quelques instants, les infos.